Salut à toi! Prêt pour une nouvelle deep dive? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, la sécurité numérique.
Ah oui, un sujet vaste, exactement.
Et pour cette deep dive, on va surtout se focaliser sur le lien entre le monde numérique et le monde physique, et comment, parfois, nos propres comportements peuvent nous rendre vulnérables. On s'appuie sur une conférence d'un expert en cybersécurité, avec ses slides et quelques articles pour aller plus loin.
L'idée, c'est de montrer que le numérique et le physique ne sont plus vraiment séparés, tu vois. Une simple panne informatique peut avoir des conséquences bien réelles. Imagine. Une voiture autonome qui a un bug sur l'autoroute à cause d'une faille de sécurité, l'impact est direct, physique, avec un risque d'accident grave.
Oui, et ce qui est vraiment intéressant dans cette conférence, ce sont les exemples concrets. Des histoires qui montrent bien ce lien entre le numérique et le physique.
Ah oui, comme Marie.
Il y a l'histoire de cette femme, par exemple. Elle a perdu son travail suite au vol de son ordinateur portable. Toutes ses données professionnelles, des années de travail envolées.
Ah oui, c'est terrible ça.
Il y a aussi l'histoire d'Emeline, une doctorante. Elle s'est fait voler son ordinateur avec sa thèse dedans, le fruit de 5 années de recherche. C'est une vraie perte, hein?
Oui, une perte énorme. On parle de capital immatériel pour décrire ce genre de choses.
C'est-à-dire I.
Ben, c'est la valeur des données qu'on stocke sur nos appareils. Les documents, les photos, les recherches, mais aussi les infos personnelles, les souvenirs. Tout ça, c'est précieux.
Ah oui, je comprends.
Perdre ce capital immatériel, ça peut avoir un impact psychologique énorme, sans parler des conséquences financières parfois.
Et le pire, c'est que les cybercriminels, eh bien, ils l'ont bien compris. Ils ne s'attaquent plus seulement aux failles techniques. Ils exploitent nos faiblesses humaines, nos émotions.
Nos biais cognitifs, tu
Ouais.
veux dire?
Oui, exactement. L'expert en cybersécurité explique qu'il y a 7 principes de manipulation utilisés dans les arnaques en ligne. Franchement, c'est assez bluffant de voir comment ça marche.
C'est vrai, ces principes, ils sont basés sur la psychologie humaine, tu vois. On peut prendre l'exemple du principe de réciprocité. Naturellement, on a tendance à vouloir rendre l'appareil quand on reçoit quelque chose. Les arnaqueurs, ils utilisent ça en offrant des cadeaux, des réductions, pour créer un sentiment de dette et te pousser à agir.
Ah oui, comme ces faux emails de banque qui te promettent un remboursement et qui te demandent de cliquer sur un lien.
Exactement. Il y a aussi le principe d'autorité. On fait plus facilement confiance à quelqu'un qui a l'air d'être une autorité. C'est pour ça que les escrocs se font passer pour des banques, des institutions officielles, pour te mettre en confiance.
Et dans sa présentation, l'expert parle de l'expérience du gorille invisible. Tu connais Lance?
Non, pas du tout.
C'est une expérience où on demande aux gens de compter les passes dans un match de basket. Et la plupart ne remarquent pas un gorille qui traverse le terrain. C'est incroyable, non?
Ah ouais! C'est fou ça!
C'est ce qu'on appelle la cécité attentionnelle. Notre cerveau se focalise tellement sur une tâche qu'il en oublie le reste.
Et les arnaqueurs, ils utilisent ça aussi.
Bien sûr, il crée un sentiment d'urgence, une émotion forte, pour détourner ton attention des signaux d'alerte. Tu imagines, tu reçois un email qui dit que ton compte bancaire est bloqué, que tu dois agir tout de suite. Tu paniques et tu ne fais plus attention aux détails.
Ah oui, je vois.
Et justement, la conférence, elle aborde plusieurs types d'arnaques modernes qui utilisent ces techniques de manipulation. Le phishing, bien sûr, avec des imitations de sites web de plus en plus réalistes.
Et il y a quoi d'autre?
Il y a les arnaques sentimentales aussi, comme le pig-butchering.
Le pig-butchering, c'est quoi ça?
C'est une arnaque où les escrocs prennent le temps de construire une relation de confiance avec toi avant de te voler.
Ah oui, c'est horrible ça.
Et puis, il y a les réseaux sociaux qui sont de plus en plus utilisés pour diffuser ces arnaques. L'expert, il donne un exemple assez incroyable. Une personne qui s'est fait passer pour une employée d'EFG Capital International sur LinkedIn. Elle utilisait les photos d'une influenceuse fitness.
Incroyable. Mais comment c'est possible?
Elle apparaissait même dans la liste des employés sur la page de l'entreprise. C'est vraiment troublant parce que ça donne une illusion de crédibilité. Les gens ont tendance à faire confiance à un profil qui a l'air légitime.
Ouais, c'est vrai.
Et puis, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui rend les choses encore plus compliquées. De fausses images, des vidéos truquées. Des fois, c'est tellement réaliste qu'on ne sait plus ce qui est vrai ou faux.
Ah oui, les deepfakes, on en entend beaucoup parler.
Exactement. Et l'IA, elle peut aussi être utilisée pour diffuser de fausses informations et manipuler l'opinion publique. Imagine une fausse vidéo d'un président qui annonce une catastrophe ou une guerre.
Les conséquences pourraient être énormes.
Face à toutes ces menaces, on se sent un peu perdu, hein.
Oui, c'est clair.
Mais heureusement, la conférence donne aussi des pistes pour se protéger. On en parlera plus en détail dans la suite de notre exploration.
Impatient d'en savoir plus. On va continuer notre exploration en s'intéressant à une arnaque vraiment sournoise, le pig butchering.
Oui, le nom est déjà assez.
Oui, c'est ça, imagine. L'idée, c'est que l'escroc, il engraisse sa victime avec plein d'attention, de compliments, avant de la dépouiller. Un peu comme un cochon qu'on gave avant de l'abattre, tu vois.
Oui, c'est assez horrible comme comparaison, mais ça reflète bien la réalité de l'arnaque. La conférence, elle mentionne un cas terrible. Une américaine qui a perdu 450 000 dollars à cause de ça.
450 000 dollars, c'est énorme.
Oui, et ce qui est vraiment glaçant, c'est que l'escroc, il utilisait des deepfakes, ces vidéos truquées hyper réalistes, pour lui faire croire qu'il était bien la personne qu'elle pensait.
Des deepfakes?
Oui, elle avait l'impression d'avoir une vraie relation avec des appels vidéo, des selfies. Tout était faux, en fait. Tout était mis en scène pour la manipuler.
C'est dingue, ça.
Alors, on se demande vraiment comment se protéger face à des techniques aussi sophistiquées.
La première chose, c'est d'être conscient du danger. Savoir que ces technologies existent, qu'elles peuvent être utilisées pour faire du mal.
Oui, c'est vrai. Et pour le pig butchering, la conférence, elle explique comment les escrocs procèdent. C'est assez fascinant, mais aussi effrayant de voir comment c'est organisé.
Oui, c'est un processus très rodé, hein.
Le premier contact, il est souvent accidentel via les réseaux sociaux ou les sites de rencontres.
Oui, d'accord.
Ensuite, l'escroc, il va prendre son temps pour développer la relation. Il va partager des choses personnelles, des anecdotes. Il va créer une illusion d'intimité.
Pour gagner la confiance de la victime.
Exactement. Il joue sur les émotions, le besoin de connexion pour rendre la personne vulnérable.
Ah oui, je vois.
Et ensuite, vient la phase d'incitation à l'investissement.
C'est-à-dire?
Evas. Eh bien, l'escroc va proposer un investissement soi-disant sûr et lucratif.
D'accord.
Souvent, c'est sur une plateforme frauduleuse, mais qui a l'air très professionnelle. La victime, elle est encouragée à faire un premier petit investissement qui rapporte des gains rapidement, histoire de l'appâter.
Ah oui, d'accord.
Et ensuite, on l'incite à investir de plus en plus. Et quand elle veut retirer ses gains, eh bien, c'est impossible. L'escroc, il invente des excuses, des frais supplémentaires, et il finit par disparaître avec l'argent.
C'est vraiment terrible.
La conférence met aussi en garde contre un autre type d'arnaque.
Oui.
Une arnaque qui exploite notre besoin d'appartenance. C'est le principe d'unité, décrit par Robert Cialdini, un expert en persuasion.
Ah oui, je connais Cialdini.
En gros, on a tendance à faire confiance plus facilement aux gens qui partagent nos valeurs, nos origines, nos passions.
Oui, c'est logique.
Et les escrocs, ils profitent de ça. Ils s'infiltrent dans des groupes, des communautés en ligne pour gagner la confiance des membres. Ils se font passer pour l'un des nôtres. Ils partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes opinions.
Et les gens baissent leur garde.
Exactement. L'expert, il donne l'exemple des systèmes de Ponzi, ces schémas pyramidaux où les premiers investisseurs, ils sont payés avec l'argent des nouveaux.
Ah oui, les systèmes de Ponzi, j'en ai déjà entendu parler.
Ces arnaques, elles ont souvent fait des ravages dans des communautés soudées. Parce que les gens, ils ne se méfiaient pas de quelqu'un qu'ils considéraient comme un ami, un membre de leur groupe.
C'est un bon rappel à la prudence, hein.
Oui, il faut être vigilant, même dans des contextes qui paraissent familiers et sécurisants. L'expert, il donne un exemple assez frappant, une arnaque via WhatsApp. Imagine, tu reçois un message d'un ami qui te demande un service urgent. Son téléphone est bloqué et il a besoin que tu lui transmettes un code PIN qu'il a reçu par SMS.
Oui.
On a tous envie d'aider un ami en difficulté. Mais attention, ce code PIN, c'est en fait celui qui permet de transférer son compte WhatsApp sur un autre appareil.
Ah oui, je vois le piège.
Si tu le transmets, l'arnaqueur, il prend le contrôle du compte. Et il peut se faire passer pour ton ami auprès de ses contacts.
Et il peut faire quoi avec ça?
Il peut te demander de l'argent à tes contacts, diffuser de fausses informations, ou même accéder à des données sensibles si ton ami utilisait WhatsApp pour le travail, par exemple.
C'est vraiment dangereux.
Et la conférence, elle évoque un cas similaire sur LinkedIn. Une personne a créé un faux profil avec les photos d'une influenceuse et elle prétendait travailler pour EFG Capital International.
Encore EFG Capital International.
Oui, et le plus fou, c'est qu'elle apparaissait dans la liste des employés sur la page de l'entreprise. C'est une faille de sécurité que LinkedIn devrait corriger, parce que ça donne une crédibilité instantanée à l'arnaque.
Oui, c'est vrai.
Les gens, ils ont tendance à faire confiance à un profil qui a l'air d'avoir un poste important dans une grande entreprise.
Et après, l'arnaque, elle peut prendre plein de formes.
Oui, ça peut être une demande de contact pour parler business, une proposition d'investissement exclusive, une invitation à un événement.
L'objectif, c'est d'exploiter la confiance que les gens placent dans LinkedIn.
Exactement. Et ces exemples, ils montrent bien l'importance de la vérification. Avant d'accepter une invitation de répondre à une demande, il faut vérifier l'identité de la personne, son parcours professionnel, son lien avec l'entreprise qu'elle prétend représenter.
C'est un bon conseil.
La conférence aborde aussi un autre danger, les contenus générés par l'intelligence artificielle.
Ah oui, les images qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux.
Oui, par exemple, des sculptures de sable impossibles, des animaux qui ont des comportements bizarres, des photos de personnalités historiques dans des situations improbables.
C'est souvent amusant, mais ça peut aussi être dangereux.
Oui, parce que ça peut être utilisé pour manipuler l'opinion, diffuser des fausses informations. Imagine une fausse vidéo d'une catastrophe naturelle ou d'une émeute qui se propage sur les réseaux sociaux.
Les gens vont avoir tendance à y croire, surtout si l'image est bien faite.
L'expert, il donne un exemple concret de fausses nouvelles générées par l'IA. Des distributeurs automatiques de chats installés à Marseille.
Des distributeurs de chats.
Oui, pour réguler la population du chat errant. C'est absurde, bien sûr, mais beaucoup de gens y ont cru.
C'est fou, ça, Eniam.
C'est un exemple amusant, mais qui montre un vrai danger. Ces contenus générés par l'IA, ils sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus difficiles à distinguer du réel. Donc il faut redoubler de vigilance.
Exactement. Il faut apprendre à vérifier les sources, à croiser les informations, à ne pas se laisser influencer par les images.
C'est pas facile, hein?
L'expert, il donne un conseil très précieux. Accepter le doute. Si tu as un doute sur une information, une image, un email, mieux vaut s'abstenir de cliquer, de partager, de répondre. L'incertitude, c'est mieux qu'une action précipitée qui pourrait avoir des conséquences négatives.
Oui, c'est ça comme conseil.
Il faut se rappeler que les cybercriminels, ils jouent sur nos émotions, nos faiblesses. Ils créent des situations d'urgence, des offres irrésistibles, des messages alarmistes pour nous faire réagir sans réfléchir.
D'accord.
Un exemple frappant dans la conférence, c'est les attaques aux faux supports Microsoft. La victime, elle reçoit un message paniquant qui lui dit que son ordinateur est infecté par un virus et qu'elle doit appeler un numéro d'assistance immédiatement.
Et bien sûr, c'est un faux numéro.
Exactement. L'arnaqueur, il va se faire passer pour un technicien Microsoft et il va essayer d'obtenir un accès à distance à l'ordinateur de la victime pour voler ses données ou installer des logiciels malveillants.
Ah oui, je vois le genre.
Face à ce type d'attaque, la conférence, elle donne des conseils précis. Tout d'abord, ne jamais appeler un numéro d'assistance qui s'affiche tout seul sur ton écran.
D'accord.
Si tu as un problème avec ton ordinateur, contacte directement Microsoft via leur site web officiel.
Ok.
Et si tu es déjà victime de ce genre d'attaque, la première chose à faire, c'est de débrancher ton ordinateur d'Internet. Ensuite, tu changes tous tes mots de passe et tu signales l'incident au NCSC, le Centre national pour la cybersécurité.
C'est noté. Bon, on a pas mal parlé des dangers, des arnaques. Mais la conférence propose aussi des solutions pour se protéger, pour renforcer sa sécurité numérique. Des choses assez simples, en fait.
Ah oui, comme...
Par exemple, activer l'authentification à deux facteurs.
Oui, on en entend souvent parler. Concrètement, ça sert à quoi?
En gros, c'est comme un deuxième verrou pour tes comptes en ligne. Même si quelqu'un vole ton mot de passe, eh bien, il ne pourra pas accéder à ton compte sans ce deuxième code qu'on reçoit généralement sur son téléphone.
D'accord, je vois.
Dans la conférence, il y a l'exemple d'un étudiant à l'université de Lausanne qui avait utilisé des keyloggers, tu sais, logiciels qui enregistrent tout ce qu'on tape sur le clavier pour voler les mots de passe de plus de 700 comptes.
Ah oui, quand même.
Avec l'authentification à deux facteurs, eh bien, son attaque aurait été beaucoup moins efficace.
Oui, effectivement, ça change tout. L'expert, il insiste aussi sur l'importance de bien effacer les données dont on n'a plus besoin.
Ah oui, ça c'est important. On a souvent tendance à penser qu'il suffit de faire supprimer et puis c'est bon. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas.
Ah bon.
En fait, les données, elles ne sont pas vraiment effacées. Elles sont juste marquées comme disponibles pour être remplacées. Imagine, tu as une armoire avec des dossiers. Quand tu en jettes un, tu le retires de l'armoire. Mais l'espace, il reste disponible. Quelqu'un pourrait fouiller dans l'armoire et retrouver des infos sur ce dossier. Eh bien, c'est pareil avec les données numériques.
D'accord, je comprends mieux.
Il faut utiliser des logiciels spéciaux pour les effacer vraiment de manière sécurisée. Surtout si on revend un appareil ou un disque dur, par exemple. D'ailleurs, l'expert, il raconte une anecdote assez incroyable. Il a acheté des cartes mémoire d'occasion, censées être vides, et il a réussi à récupérer plus de 22 000 photos.
C'est dingue. Oui, on ne réalise pas toujours à quel point nos données peuvent persister, même quand on pense les avoir effacées.
La conférence, elle aborde aussi la lecture des entêtes d'email.
Ah oui, c'est vrai.
Ça a l'air un peu technique. Ça sert à quoi, concrètement? En analysant l'entête, on peut voir l'adresse IP de l'expéditeur, le cheminement du message. C'est une mine d'informations pour vérifier si un email est authentique ou pas.
Ah oui, je vois.
Et l'expert explique qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à analyser ces entêtes. Il existe des outils en ligne, tu copies-colles le code de l'entête et l'IA te dit si le message est suspect ou pas.
C'est génial, ça. L'IA peut vraiment être une alliée dans la lutte contre la cybercriminalité. L'expert, il encourage aussi à l'utiliser pour vérifier la crédibilité d'un site web, non?
Exactement. Il a des outils qui analysent le site et qui détectent des signaux d'alerte, tu vois. Un nom de domaine bizarre, l'absence de certificat SSL, des mentions légales incomplètes.
D'accord.
L'IA, elle peut aussi comparer le site web à une base de données de sites frauduleux. Ça permet de repérer les arnaques plus facilement.
Au final, on n'est pas totalement démunis face à ces menaces. On a des outils pour se protéger. Mais au-delà des outils, l'expert, il insiste beaucoup sur l'importance de développer notre esprit critique. Apprendre à repérer les situations d'urgence artificielle, par exemple.
Oui, c'est ça. Les arnaqueurs, ils créent souvent un sentiment de panique, une urgence, pour nous pousser à agir sans réfléchir. Il faut apprendre à prendre du recul, se poser les bonnes questions. Pourquoi je devrais faire ça si vite? Est-ce que cette demande, elle est logique? Est-ce que je connais vraiment cette personne?
Oui, c'est important de ne pas se laisser emporter par ses émotions.
C'est un peu comme un muscle qu'il faut entraîner, ce sens du discernement.
Oui, c'est vrai.
Et puis, l'expert, il nous encourage à apprendre des erreurs des autres. Partager nos expériences pour éviter de tomber dans les mêmes pièges.
Oui, la sécurité numérique, c'est une responsabilité collective, en fait.
Exactement. Les entreprises, elles doivent faire leur part en sécurisant leur système, en sensibilisant leurs employés. Et nous, en tant qu'individus, on doit être vigilant, critique, solidaire.
C'est ça. S'informer, partager ses connaissances et ne pas hésiter à demander de l'aide si on a un doute.
Tout à fait.
Finalement, la sécurité numérique, ça repose sur un équilibre fragile entre confiance et vigilance.
Oui, c'est bien résumé. Confiance dans les technologies, dans les institutions, dans les autres, mais en même temps, une vigilance constante pour ne pas se faire avoir.
C'est en trouvant cet équilibre qu'on pourra naviguer sereinement dans le monde numérique de demain.
Tout à fait.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que cette deep dive dans l'univers de la sécurité numérique t'aura permis d'y voir plus clair. N'oublie pas, l'information, c'est ta meilleure arme. Continue à te renseigner, à partager tes connaissances et à développer ton esprit critique. À bientôt pour une nouvelle deep dive.